应该是打高尔夫了。
Au revoir les enfants. À bientôt.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
I love you, but you don't know what you're talking about.
I love you too.
Elle vous a trahi et vous n'avez jamais compris pourquoi.
Comment savez-vous toutes ces choses ?
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor. Alors, cette semaine, une émission un petit peu particulière car le studio est légèrement déserté cette semaine. Qu'à cela ne tienne, notre toile est malgré tout caressée par la beauté tenace d'un film sorti en juin dernier, La Tortue Rouge de Michael Dudok De Witt, film qui ressort à l'occasion du festival cinéma Télérama et dont je vais vous parler aujourd'hui. Et à mes côtés, il y a Pierre qui n'a pas délaissé son addiction pour les séries. Bonjour Pierre.
Bonjour Rémi. Du coup, La Tortue Rouge, avec un titre pareil, ça peut parler de quoi en fait ?
Alors, c'est un film avec une tortue rouge.
Non.
Mais si. Mais alors, cette histoire, c'est un dessin animé déjà, et c'est une Robinsonade. Donc, le personnage principal, un homme, on le voit dans les premières images du film, sur un radeau en plein milieu d'une tempête. Et le radeau s'échoue sur une île où il est manifestement seul, au milieu d'une nature verdoyante et magnifique. Et alors, à chaque fois qu'il va construire un radeau pour essayer de repartir de cette île, une mystérieuse et énorme tortue rouge va détruire ce radeau et le précipiter à nouveau sur la berge, comme pour l'empêcher de s'en aller. Et lorsqu'il finit par tuer cette tortue, de son cadavre sort une magnifique femme aux cheveux rouges. Effet magique qui n'apparaît même pas comme magique dans cette espèce de nature transcendée qui est montré dans le film, mais je reviendrai dessus. Et puis ce personnage et cette femme vont vivre ensemble, avoir un enfant, et il n'y a pas plus de scénario. Et c'est là qu'est l'adresse incroyable du film, c'est qu'il procède par petites touches et montre quelques étapes extrêmement anecdotiques de la vie de ces deux personnages, et arrive à en faire tenir l'essentiel, et vraiment l'essentiel au sens fort du terme, dans ces quelques petites touches qu'il nous montre. Et il y a quelque chose de magnifique à ça.
J'ai l'impression que tu as beaucoup aimé quand même.
Alors, j'ai pas beaucoup aimé, j'ai adoré. Pour le dire comme ça, c'est très certainement le plus beau film que j'ai vu pendant cette année 2016, et j'en ai vu quelques-uns. Et c'est sans hésiter le plus beau dessin animé que j'ai jamais vu. C'est une véritable splendeur. Et ça porte une émotion telle que j'en ai probablement jamais vu dans un film.
Plus beau encore que Ernest et Célestine, par exemple ?
Que je n'ai pas vu.
Ah.
Mais ce film réussit vraiment à toucher quelque chose d'essentiel chez son spectateur, et c'est une sensation que je partage avec beaucoup de personnes avec qui j'en ai parlé. On ne sait pas exactement ce que l'on trouve beau dans ce film, mais on est véritablement subjugué par les images et par la justesse de ces moments qui nous sont montrés. On a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui réussit à cerner en 1h20 la vie. Et c'est vraiment grandiose à ce titre-là. C'est un film qui peut être vu de 2 à 102 ans, étant donné que les personnages ne parlent même pas, en fait. Ils émettent quelques bruits, mais à part des cris d'enfants ou peut-être un cri de détresse à certains moments. Mais le film arrive à se passer de mots pour dire simplement par l'image, par le dessin et aussi par la musique quelque chose, oui, vraiment de magnifique.
Donc la tortue rouge, tu parlais de la nature verdoyante, si je ne me trompe pas, tout à l'heure, etc. En plus, c'est un dessin animé sans parole, ça veut dire qu'il y a une esthétique assez particulière, non ?
Alors, il y a une esthétique très très forte, le dessin est splendide également. Bon, il y a 10 ans de boulot dans ce film de la
ah
part
oui,
du réalisateur,
même.
Donc voilà. Le dessin qui, à l'image du film, est d'une douceur extrême. Il y a plein de petits détails qui sont montrés, un couple de crabes qui sont presque là à titre de personnages, qui vivotent seulement sur la plage, mais qui sont extrêmement touchants et qui reviennent juste à 3-4 moments dans le film. Et à côté de ça, la façon dont la nature déchaînée est dessinée à certains moments aussi et peut être très très brutale, mais c'est vraiment extrêmement beau et on sent la patte des studios Ghibli qui ont financé le film dans ce dessin. On sent entre autres la patte d'Isao Takahata qui est l'un des producteurs du film, et certaines scènes peuvent rappeler le dessin extrêmement organique qu'il a pu utiliser par exemple dans La Princesse Kaguya. À côté de ça, il y a également la musique qui transporte une émotion enfin, assez inexprimable. 6 mois plus tard, en réécoutant cette musique, je continue à ressentir quelque chose. C'est vraiment un tout qui est extrêmement réussi. Et donc cette esthétique, cette musique et ce scénario très très court finalement arrivent à s'unir pour donner un résultat d'une simplicité foudroyante. Je le disais tout à l'heure, ça touche vraiment à quelque chose d'essentiel et ça arrive à la fois à cerner une totalité et à évacuer tout le superflu. Alors c'est le principe de la Robinsonade, on reste sur une île et le monde extérieur n'existe plus. Mais vraiment pendant 1h20 on oublie ce monde extérieur. Il y a une expression en français qui dit « beau à pleurer ». Ben là, c'est pas triste, mais on pleure. Et on finit par comprendre qu'on a peut-être été touché l'espace d'1h20 par quelque chose qui ressemble à une forme de grâce.
De ce que tu en dis et de la bande-annonce, etc., oui, en effet, ça a l'air d'être un superbe ensemble. Et du coup, ben, où est-ce qu'on peut le voir ?
Alors le film ressort à l'occasion du festival cinéma Télérama qui fait ressortir les 15 films les plus marquants de l'an dernier. 4 cinémas participent à l'opération cette année, donc nos partenaires des CNP Bellecour et de La Fourmi, ainsi que le Comédia et le Zola. Donc 15 films vont ressortir pendant la semaine du 18 au 24 et comme l'an dernier, je ne peux que vous encourager à sécher tous les cours que vous avez pendant cette semaine pour rattraper votre retard. C'est vraiment l'une des dernières occasions que vous avez. Donc vous pourrez revoir La Tortue Rouge dans 3 des cinémas concernés, je crois. Vous pourrez revoir aussi d'autres films comme à tout hasard Les Ogres, Carole, Café Society ou Elle. La liste complète des films est disponible sur la page de l'émission, en dessous du player que vous êtes en train d'écouter. Et vous verrez que cette liste coïncide en grande partie avec le top 15 des films de l'année 2016, dressé par la rédaction de Transistor, que nous avons publié il y a quelques semaines maintenant. Voilà, donc chers auditeurs, si vous n'avez pas compris, il est grand temps de lâcher votre ordinateur, de lâcher la radio, et je ne vous dirai pas ça souvent, pour aller courir au cinéma. Voilà, et donc s'il vous reste encore un petit peu de temps ce week-end, peut-être pourriez-vous tranquillement rester dans votre lit et regarder une série, et c'est Pierre qui va encore vous en proposer une.
En effet, une nouvelle pour cette semaine.
Ted, suit up!
Lana. Lana. Lana.
Lana!
What? Danger zone.
Say my name.
Eisenberg.
You're goddamn right.
Cool. Cool, cool, cool.
Boy, these pretzels are making me thirsty.
While my days are not taking you seriously, they're certainly coming to a middle.
Plata o plomo.
Democracy is so overrated.
Office.
Winter is coming.
Rémi. Si je te dis brushing indestructible, jean moulant sans ceinture qui remonte au-dessus des hanches, pistolet laser et surtout reptilien nazi de l'espace, tu en penses quoi ?
Je suis pour.
Eh ben oui, comme moi. Les plus adeptes de la science-fiction auront sûrement remarqué que la musique de fond du générique de cette rubrique n'est autre que le thème de la série V, un classique des années 80, d'où les brushing, les jeans, etc. C'est une mini-série à l'ancienne, c'est-à-dire une suite de films prévus pour la télévision, composée de 5 épisodes d'environ 1h30 répartis en 2 saisons. La première a été diffusée en mai 1983 sur la chaîne NBC. La seconde, intitulée V, The Final Battle, a elle été diffusée l'année suivante. Ces 2 saisons, composant une histoire complète, ont toutefois été prolongées par une série reprenant des séquences entières de la mini-série. Attention, c'est pas encore fini. Le créateur Kenneth Johnson, un habitué du monde de la télévision, avait prévu une suite à V, la première saison, ignorant totalement V, The Final Battle. Sauf que ABC a décidé de faire un reboot en lançant la série V en 2008, éclipsant ainsi V, The Second Generation, la deuxième saison censée remplacer V, The Final Battle, la véritable deuxième saison. Le reboot ayant fait un flop total, à en juger par les bandes annonces, je pense pouvoir comprendre pourquoi, même si je n'ai pas osé la regarder encore, V de 2008 a été annulé au bout d'à peine 2 petites saisons. Du coup, V, The Second Generation est devenu un roman alternatif présentant une autre fin prévue par Kenneth Johnson. je peux comprendre que vous soyez un petit peu perdu. Mais cette semaine, je vais vous parler tout simplement de V et V The Final Battle, soit les 5 premiers films qui forment un arc narratif complet. C'est un premier caractère que j'aime dans les mini-séries, ça ne s'éternise pas. Même si pour certains formats, surtout les sitcoms, j'aime les enchaîner sans que ça s'arrête, si ça ne tourne pas en rond comme Friends ou How I Met. Pour ne pas trop vous spoiler non plus, V, ça parle de quelques Américains bien américains qui font face à l'arrivée d'extraterrestres avec une forme humaine. Sauf que rapidement, les choses commencent à paraître bizarres. Il s'avère que les extraterrestres ne sont autres que des reptiliens venus sur Terre non pas pour se ravitailler en produits chimiques en échange de technologies extraterrestres, mais pour une raison bien pire. Ils commencent à prendre le contrôle de la planète et mettent en place un système répressif totalitaire. Sauf qu'une bande d'Américains de toutes les strates de la société décide de s'unir pour former une petite rébellion qui, en grandissant, risque de mettre à mal la domination extraterrestre. Voilà en quelques lignes le pitch de ces 461 minutes de bonheur kitschissime. Parce que oui, il faut que je vous prévienne d'office, c'est les années 80 dans leur forme la plus pure. Par exemple, après à peine quelques semaines de présence extraterrestre, toute une gamme de jouets et d'action man à leur effigie est mise sur le marché. Les brushings sont impeccables et la romance sort tout droit des stéréotypes qu'on a des séries de ce genre. Il faut toutefois faire attention. Si on peut rapidement se dire que V, c'est du vu, vu et encore revu totalement kitsch, il faut se dire que c'était assez novateur à son époque et que les clichés dont on n'en peut plus maintenant n'étaient encore que des effets de style. Du coup, ça fait doublement le charme de la série, d'un côté retrouver les bons vieux clichés de la SF, et de l'autre, être quand même impressionné par la qualité, surtout dans la deuxième saison, qui commence par une scène au ralenti particulièrement saisissante pour un vieux téléfilm d'une trentaine d'années. Et puis, j'étais impressionné par une scène de la première partie de V, The Final Battle, où les personnages discutent assez librement de l'avortement, une des jeunes terriennes ayant été fertilisée par un extraterrestre. Rappelez-vous, cette série est passée sur une chaîne américaine en 1984, à peine 15 ans après la première légalisation de l'avortement aux États-Unis. Voilà une des forces de V qui commence d'abord comme une critique ouverte du nazisme et qui dévie ensuite dans quelque chose de plus humain, plus proche des personnages, une fois la métaphore bien en place. En effet, dès le premier épisode, un personnage nous le met dans le mille en rappelant que la dernière fois que de tels événements s'étaient produits, c'était 40 ans plus tôt, à Berlin. On apprendra d'ailleurs plus tard que ce personnage, le plus ardent résistant de la première heure, est un rescapé des camps de concentration. J'ai quand même trouvé assez comique le fait que le complot international contre les extraterrestres, comprenez bien sûr le complot juif, n'est autre qu'un complot de scientifiques. Ce sont donc les scientifiques et leurs familles qui sont pourchassés et maltraités. Si ça peut paraître ridicule, c'est pourtant très bien représenté à travers de petits morceaux de la vie quotidienne et comment elle a changé. Il suffit d'une fille de scientifique rentrant de l'école avec le visage en sang et expliquant à son père qu'elle s'est faite tabasser pour quelque chose d'aussi ridicule que gagner la science fair de son école pour être pris par cette atmosphère totalitaire. Bien sûr, les uniformes des extraterrestres, ou visiteurs, nous y reviendrons, sont un pur délire militariste. Même leur symbole est une version modifiée de la croix gammée sur fond rouge. Petit détail intéressant d'ailleurs, un personnage humain rejoint les amis des visiteurs, une espèce de milice, et son costume est une chemise, devine de quelle couleur Rémi ?
Rose.
Brune. Eh oui, c'est une chemise brune. On ne peut pas faire plus évident comme référence. Quoique le chef suprême des visiteurs ressemble plus à un Kevin Spacey en solde que Hitler. Venons-en au titre d'ailleurs. Les vrais sauront que l'affiche de cette série est un grand V rouge sur fond noir. V pour Visitors. Mais aussi, comme l'explique le personnage berlinois, V pour Victoire. C'est d'ailleurs ce personnage qui lance toute une mode de résistance qui consiste, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, à taguer des V sur les affiches nazies. Ici, sur les affiches montrant à quel point les visiteurs sont les amis des humains. Pure propagande bien sûr. Ce qui m'amène à mon dernier thème qui m'a attiré l'œil dans la première moitié de la série, la question de la vérité et de la propagande. Un des personnages principaux, si ce n'est le personnage principal, Mike Donovan, est un reporter de guerre. La toute première scène le montre très clairement dans une accumulation d'explosions, de rebelles centra-américains tués et un hélicoptère d'on ne sait où. Donovan est une collègue avec qui se dresse un arc romantique, entre autres, et c'est cette collègue qui nous intéresse car elle devient rapidement la porte-parole des visiteurs et donc, sans le vouloir, ou le savoir, leur ministre de la propagande. Il reste encore beaucoup de points positifs à cette série. Les femmes, par exemple, occupent des rôles centraux presque au même titre que les hommes en général, ce qui est typique de la nouvelle SF des années 80. Les acteurs sont tous excellents et les dialogues plutôt bien écrits. Les personnages sont tous utiles et parviennent à évoluer malgré leur côté un peu trop délimité parfois. Après, si les épisodes sont dans l'ensemble bien écrits, on retrouve inlassablement des clichés aberrants, mais qui correspondent à une autre époque. Après, concernant les effets spéciaux, je suis très mitigé. Quand on les compare à ceux de Star Wars 6, sortis la même année, on ne peut s'empêcher de pleurer en regardant les vaisseaux en vol. Mais pour ce qui est des tirs de laser et effets pratiques, j'ai vraiment été bluffé, surtout par les reptiliens lorsqu'ils arrachent leur masque d'humain. En bref, c'est une série vraiment excellente pour tout amateur de bonne vieille SF comme on en fait, comme on n'en fait plus, justement. Je lui accorde donc facilement 7 planètes inexplorées sur 20 systèmes solaires avec la mention « Si t'es fan de SF, qu'est-ce que tu fous pas devant cette série ?»
Merci beaucoup Pierre pour cette chronique qui me donne particulièrement envie. Ceux des auditeurs qui me connaissent ne s'en étonneront peut-être pas. Voilà, Détoile PSE, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission vous était proposée pour le cinéma par Rémi Cerda et pour les séries par Pierre Lemuel. Et à très bientôt sur les ondes de Transistor avec, je l'espère, une équipe un petit peu plus complète.